La complémentarité, alors c'est un point que j'ai pas prévu d'ailleurs de développer, hein, c'est un peu en introduction, je pense à des choses sur lesquelles on reviendra demain. Moi je pense qu'aujourd'hui on a un sujet là, pas besoin de faire le dessin sur le lien avec l'actualité, qui est que il faut conscience de cette opposition entre les métropoles et le reste du territoire, et la vision que j'ai de l'évolution économique aujourd'hui me fait penser qu'il y a aujourd'hui des formes de complémentarité très importantes qui pourraient se développer entre les territoires métropolitains et les territoires voisins. Je prends... Bon, il y a évidemment la question, toutes les questions qui tournent autour de l'écologie. Bon, je pense qu'il faut qu'on soit dans métropole à une échelle suffisante. Enfin, l'identification de la métropole et la zone dense est un piège. Parce qu'en réalité, c'est une définition un peu moyenâgeuse, la définition de l'INSEE, de dire la continuité du bâti. Ce qui est important, c'est aujourd'hui le système, et le système inclut les ressources naturelles. C'est un point que j'ai pas du tout, un peu, pas éloigné, mais un peu différent de ce que j'ai dit là. Et ensuite, je pense qu'il y a toutes sortes de complémentarités. Par exemple, si on dit aujourd'hui les usines, elles sont quand même largement en dehors des métropoles. Premièrement, elles pourraient revenir en partie dans les métropoles. Alors, aux États-Unis, il y a un grand mouvement de manufacturing urbain. Voilà, bon, ça, vous allez dire, ça ne va pas arranger les territoires métropolitains qui piquent en plus sur l'usine. Mais inversement, on a aujourd'hui assez peu de complémentarité locale, je pense, entre le volet service et le volet industriel. Ça existe, hein. Mais plutôt peut-être dans les services bas de gamme. Mais sur les services haut de gamme, on a un marché national des services, on pourrait imaginer toute forme de complémentarité. Enfin, je fais que esquisser le sujet. Hein, mais,
Oui. Oui, Pierre, Stéphane Chenier, UMM, Loire-et-Touraine. J'ai régulièrement l'habitude d'avoir des présentations de cette nature et je voulais souligner la qualité de la vôtre. Parce que, voilà, en tout cas, pour travailler dans cet environnement, je suis assez impressionné par ce que j'ai entendu ce matin, à la fois de précision dans les constats et puis aussi d'espérance. Un point qui fait écho avec ce que l'on vient d'aborder, c'est finalement l'industrie, l'identification des PME en France. Fait que notre industrie est présente dans presque chaque canton de notre territoire, peut-être on l'abordera plus tard, ouais. et donc faire le lien aussi avec le facteur d'équilibre territorial et sociétal qui fait écho avec nos premières sessions, ouais. C'est un sujet que j'aimerais bien, alors peut-être que c'est pas le moment pour en parler, parce que vous l'avez prévu après.
On en parlera demain matin, je pense.
Voilà, en tout cas de le pointer.
Ça va être au cœur de la matinée de demain.
De le pointer, un point technique sur une question que je me pose sur la transformation des nomenclatures et statistiques. On sait qu'on a des nomenclatures statistiques qui sont très verticalisées dans une approche demain et déjà aujourd'hui qui est très transversale entre l'hyper-industrialisation, une nouvelle industrie plus servicielle. Vous-même, vous retravaillez des statistiques, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu piégé dans notre lecture de la réalité de ce qui existe en France et ailleurs dans le monde par cela? Et mon dernier point qui est là un peu plus politique, c'est qu'à l'heure des tailles critiques et des économies d'échelle, je serais intéressé de vous entendre sur l'échec de la fusion Alstom-Siemens par rapport à ce qu'on vit avec nos amis chinois.
Alors, trois questions. La première, donc, on y répondra demain, hein, enfin, on y répondra, on essaiera d'y répondre, on en parlera de cette question des territoires et de l'irrigation des territoires, notamment pour les industries. Hein. Parce que l'industrie est plus stable quand même que. Sauf quand elle se casse la figure, quelqu'un crée plus de dégâts. Le deuxième point, c'était les nomenclatures. Il y a deux aspects. Vous savez que la politique industrielle, je mets des guillemets parce qu'elle est quand même. On a un peu abandonné quand même un peu les politiques industrielles. En tout cas, en Europe, on les a clairement dit que c'était pas. Il ne fallait pas avoir de politique industrielle. Mais même en France, on est aujourd'hui très axé sur la notion de filière. Hein. Alors d'une part, il y a la différence entre le manufacturier et les services, qu'on va retrouver au MEDEF ou ailleurs. Hein. Et puis dans les statistiques, j'ai eu une discussion là-dessus avec le patron de l'INSEE, qui avait eu mon bouquin, qui m'a dit est-ce qu'on pourrait travailler sur... on va voir les statistiques. Oui, c'est pas grave. Les Anglo-Saxons sont moins piégés que nous, parce qu'ils appellent tout industrie. Donc ils ont une nomenclature unique de l'industrie financière. Et l'autre sujet, c'est qu'on a beaucoup organisé, enfin aujourd'hui les débats c'est les filières, et moi j'ai un petit doute sur les filières. Alors il y a des filières, en France il y a une filière aéronautique par exemple, qui est bien représentée ici, avec le volet militaire plutôt ici, civil à Toulouse, et à Paris, n'oublions pas, un triangle en fait. J'en vois pas tellement d'autres, pour dire la vérité. Et donc, je pense que l'intérêt d'une opération comme territoire d'industrie dont on va parler demain, c'est justement un peu cette prise de conscience que la notion de filière n'est quand même pas si forte en France et qu'avoir une entrée territoriale, ça permet au moins de contrebalancer un peu cette idée qu'il y aurait des filières. Enfin, vous savez, la politique est organisée par filière, hein, il y a des comités de filière, etc. Et puis la deuxième raison, à mon avis, plus fondamentale, c'est que si on regarde ce qui est en train de naître, et en particulier les nouvelles PME, etc., et qui devraient pouvoir succéder à nos moyens de start-up, on est presque toujours sur de l'interfilière. Et que l'innovation aujourd'hui, pour des tas de raisons, elle se fait sur des choses qui sont très très transversales. Regardez ce qui se passe dans le médical, par exemple, qui est un des grands sujets. Ça c'est un point de mon intervention plus complètement châté, mais un des grands secteurs d'avenir, évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de la santé, du bien-être de manière générale. Aujourd'hui, c'est extraordinairement transversal. Parce que ce qu'on appelle les medtech, par exemple, vous voyez que là, vous avez besoin d'électronique, vous avez besoin de matériaux, vous avez besoin de biologie, vous allez classer ça où ? Même chose pratiquement pour la mobilité. Aujourd'hui, il y a autant d'électronique que de mécanique dans une période. On est encore quand même sur des critères un peu anciens. Et donc, comment on traite cette question de la transversalité des innovations, je pense que c'est un grand sujet. Donc, je relativise pas mal sur le filière. Et troisièmement, sur l'Europe, en une phrase, c'est un peu déprimant ce qui vient de se passer avec Alstom et Siemens, parce que je pense qu'il y a un avantage de réactiver un débat qu'on a depuis longtemps, mais qui n'a jamais été peut-être suffisamment poussé, qui est, c'est dans les textes, dans les traités, hein, la priorité à la politique de concurrence et donc consommateur, et donc qui, quelque part, interdit toute politique industrielle, parce qu'il y a des gens pour qui politique industrielle en Europe, et aujourd'hui la majorité est un gros mot. Les Anglais en particulier, mais pas seulement, les Hollandais et d'autres. Et là, on est quand même en train de se tirer en permanence des balles dans le pied. Le problème de la concurrence avec l'industriel chinois du ferroviaire, qui n'est pas seulement d'ailleurs les rames, hein, mais aussi la signalisation, tout ça, c'est absurde, puisque Siemens et Alstom ne vont pas se faire concurrence en Europe. Le problème, c'est la concurrence sur les marchés tiers. La concurrence, c'est sur les marchés tiers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire en Afrique? Et donc, là, on se lie les pieds et les mains de manière, je trouve, assez catastrophique. Parce que les Chinois sont en train de monter en puissance très fort, et donc l'Europe va être une espèce de... Ah voilà, donc je pense que là c'est un sujet absolument majeur. Il faut qu'on arrive à travailler vraiment, pas seulement avec les Allemands, hein, mais avec aussi avec les autres. Oui.
Bonjour, c'est Isabelle de l'UFIGEPI. J'ai une question qui est la difficulté de marier plusieurs échelles. Donc je pense qu'il y aura un souci même dans ma question. Mais à la fin de la première partie de votre intervention, je me demandais comment on pouvait sortir ce fameux effet Jevons. Parce que même si on n'en a pas parlé, que c'est relativement micro, il y a aussi une poussée à plus de souveraineté dans une partie de la population mondiale, surtout dans les pays développés. Et qu'au final, la tradition étant de créer de nouveaux produits plus performants pour être moins énergivores, moins polluants, etc., comme vous l'avez montré, ça génère encore plus de produits. Peut-être encore plus de dépenses énergétiques, on a l'impression que même avec cet engouement-là, on ne fait qu'accentuer le problème. Comment inverser la boucle même si là vous avez parlé en deuxième partie d'économie relationnelle et de tout ce qui peut se jouer autour des coopérations et des écosystèmes, on sait bien que c'est une poignée de territoires qui peuvent vraiment jouer le jeu de cette circulation des innovations. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'à un moment donné ça se rencontre et surtout pour que ça joue un rôle quand on a une augmentation dans beaucoup de pays de la demande en plastique, en nombreux produits. Comment on peut
réfléchir
un peu ce processus-là?
Je ne sais pas. Je pense que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent, je pense qu'il faut déjà être conscient du problème. Je crois que là, tu as raison, c'est quand on dit que c'est pas parce que les produits deviennent individuellement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, où les process deviennent individuellement plus vertueux, que c'est à l'échelle globale, c'est forcément, il y a toujours ce fameux effet de multiplication, quoi. Qui est que quand on regarde les chiffres aujourd'hui on sert les photos, là, enfin je veux dire, toujours leur expliquer qu'il faut être sombre. Hein. Vous avez vu, le plastique et où est la demande aujourd'hui, elle est essentiellement en Asie et dans des pays comme ça. Je pense que moi, je ne vois qu'une solution à ça, c'est la politique qui doit être au pouvoir, et la politique appuyée sur la mobilisation massive de la société civile. Je pense que les normes industrielles, etc., ne sont pas suffisantes pour résoudre le problème. À un moment donné, il faudra quand même se poser la question de savoir si on continue à laisser se développer l'industrie du pétrole et de la pétrochimie de manière totalement libre, hors quota par exemple. Voilà. Mais après, pas de petite affaire, hein, je pense. Hein.
Oui. Donc Charlotte Sorin, Bordeaux Métropole, je vois bien une échelle beaucoup plus micro en reprenant vos propos sur la difficulté l'articulation, la complémentarité possible entre la métropole et les territoires environnants, et le risque que les métropoles captent l'ensemble des emplois, y compris industriels. Nous, ce qu'on vit ici, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on se bagarre pour garder l'emploi industriel dans la métropole, les coûts du foncier étant de plus en plus élevés. C'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un évincement quasi naturel des activités productives, d'autant qu'en plus les riverains sont rarement favorables à voir arriver ou continuer à se développer l'activité industrielle à leur porte. On a cette difficulté-là avec le souhait qu'on a de refaire du refit de yachts dans les bassins à flots en pleine ville et on est levé le bouclier des riverains. On a une vraie difficulté à garder de très belles entreprises, je pense à SAF. De la R&D qu'on voudrait accompagner, mais tout le monde rêve de les mettre à l'extérieur de la métropole. Or, c'est un vrai savoir-faire qu'on veut conserver. Entre toutes petites entreprises, c'est pareil. Il y a comment être fou pour avoir les moyens de se localiser encore dans le cœur de la métropole, les artisans, les petites PME, pour qu'on lance des appels à projets, pour conserver du foncier spécifiquement pour eux, mais c'est vraiment compliqué. Et très naturellement, on a plutôt un phénomène centrifuge.
Oui, c'est vrai. Je pense que là aussi, il ne faut pas opposer les deux. Hein. C'est-à-dire, moi, je plaide à la fois pour qu'on puisse réfléchir à un certain maintien, voire retour de certaines activités de type industriel, de production, qui aujourd'hui, certaines sont parfaitement propres, non polluantes, etc., et qui aurait l'avantage, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais frappé en regardant un peu ce mouvement américain de manufacturing urbain. Ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait de garder dans les villes, dans les métropoles, qui sont aujourd'hui un peu à cause des marchés fonciers, en voie de polarisation sociale, hein, de garder des emplois de qualification intermédiaire, comme vous disiez tout à l'heure, pour l'équilibre sociologique et des métropoles, ils pensent que c'est intéressant de ramener certains types d'industries en ville qui étaient sorties parce qu'elles étaient effectivement gravement polluantes, etc. Et aujourd'hui, ça pourrait être différent. Alors, il y a tout un mouvement, hein. C'est assez intéressant de regarder ça. Bon, Paris a fait des choses du même genre et tout, mais après, je pense qu'on peut à la fois. Je pense que c'est important de garder effectivement ce genre d'activité, ou c'était aussi l'artisanat. Hein. En Ile-de-France, par exemple, je pense qu'on devrait. On a éjecté l'artisanat de plus en plus loin, ce qui est totalement dysfonctionnel, et pour les artisans, et pour la population. Mais en même temps, ce n'est pas incompatible avec le fait de trouver de nouvelles formes de une nouvelle forme de relation avec les territoires périphériques des métropoles. Enfin, moi, plus que c'est un combat, quoi. Il faut qu'on arrête ce discours dichotomique, parce que qu'on regarde tout ce qu'on peut faire ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble entre les métropoles et qu'on a intérêt à faire ensemble entre les métropoles et les territoires périphériques. Avec cette distinction qui apparaît tout de suite, c'est que vous avez du coup périphérie et périphérie. C'est-à-dire c'est... Mon intuition, c'est que si on joue bien les villes moyennes, ou les petites villes, ou même les rurales, qui sont vraiment assez proches des métropoles, en gros, pour permettre un aller-retour dans la demi-journée, quelque chose comme ça, on a eu toute leur chance. Vraiment, je ne pense pas être délirant d'optimisme en disant ça. C'est plus compliqué pour des villes moyennes qui sont loin d'un tissu métropolitain, hein, qui peuvent avoir des processus de redéveloppement mais plus ponctuels et qui seront quand même un peu plus difficiles. C'est un très grand sujet. Oui.
Je vais juste là-dessus un exemple à vous donner de choses qui fonctionnent particulièrement bien dans la région Occitanie, anciennement Midi-Pyrénées, dans le Figeacois, entre le Cantal et le Jura, il y a Mécanique Vallée qui concentre à peu près 20 et plus de 1000 emplois qui sont quasiment tous industriels sur 144 entreprises avec des clusters qui sont extrêmement bien intégrés les uns aux autres pour arriver à travailler en commun. Vous parlez des réseaux tout à l'heure, c'est exactement ça, avec des systèmes de qualité qui sont notamment liés à la relation entre les différents sous-traitants de l'automobile, de l'aéronautique, et pourtant c'est Figeac qui est à 2 heures et plus de route donc ça fonctionne. Voilà, les Martin Malvy derrière, ce qui a permis certainement de bouger quelques lignes en termes de financement de l'État, mais en tout cas, c'est des choses qui fonctionnent.
Oui, alors Figeac, tout à l'heure, quand on parlait de présenter la carte des importations de la Nouvelle-Aquitaine, on apportait, je disais à Denis, il y a Pau, mais il y a Tarbes qui n'est pas loin, hein. Qui est dans une autre région, et puis Figeac, c'est pas très loin non plus, fait partie du système aéronautique du grand sud-ouest français. C'est vrai que Figeac est un très bel exemple, mais à Figeac, enfin, moi, je connais pas bien, mais il y avait Ratier, donc il y avait déjà une base de connaissances. Après Figeac Aéro, que j'ai développé, vous avez d'autres choses formidables, hein, que j'ai découvert, j'en ai fait un de Figeac. Enfin, il y a aussi, c'est aussi ce que je disais dans mon slide sur le capital social, quoi. On voit bien qu'il y a des petites villes. Les villes moyennes, le dessin n'est pas écrit. Quoi. Il dépend de la capacité des gens à se retrouver les manches et à être créatifs.
Excusez-moi.
Oui.
Dans votre intervention, il y a quelque chose qui me semble. Enfin, qui sonne à mes oreilles comme un paradoxe. Et je vais voir si c'est une incompréhension, si on arrive à le dépasser. Par rapport à ce que vous avez dit sur les questions, par exemple, de régulation. De l'activité autour des questions d'empreinte écologique, construction d'un rapport de la société civile, rapport de mobilisation politique et puis de production à un moment de normes. Et puis votre propos tout à l'heure sur la constitution de champions économiques européens qui sont capables après de se positionner dans l'économie mondiale. Je trouve qu'il y a, et vos propos là qui tentent à montrer que dans beaucoup de secteurs, finalement, on a de la concentration capitalistique, de l'émergence de situations qui s'apparentent à des monopoles. Moi, dans ma bête culture un peu académique, j'avais en tête qu'en France, peut-être en Europe, quand on avait des situations monopolistiques, il y a des monopoles naturels qui s'établissaient, qui étaient de fait publics, pour pouvoir permettre d'en assurer une régulation, voilà, un pilotage assurant un minimum de non-perte de souveraineté pour l'État. Alors je sais bien qu'on est passé dans une économie mondialisée, que cette notion-là est là. Elle a peut-être pris un peu du plomb dans l'aile, mais du coup, comment est-ce qu'on continue à assurer une forme de souveraineté face à des monopoles quasi mondiaux? Où est-ce que se fait la régulation économique, financière, fiscale, la redistribution ça vous interpelle pas un peu ces monopoles en forme de souveraineté?
Ben si, bien sûr que si, surtout si les monopoles sont pas européens. La question aujourd'hui, vous voyez bien que il y a une prise de conscience quand même très forte, bon, essentiellement axée sur la question de la fiscalité, mais qui va au-delà, hein, du fait que ben maintenant, les GAFA, dans l'Ouest, et la partie ouest de la planète, et puis leurs équivalents chinois, hein, qui sont aussi puissants, hein, ont pris des places françaises et que nous, on n'existe plus. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on est capable de... La question public-privé, elle est très importante, parce qu'on a notamment cette culture du public en Europe, et moi je pense déjà le premier, ce serait déjà important qu'on ait quelque chose qui est capable de faire contrepoids au GAFA et à Alibaba et à Tencent. Hein. Et voilà, après, je pense que le problème de la souveraineté aujourd'hui, on ne peut pas se décliner uniquement sur l'axe public-privé, hein, ça ne peut pas. Hein. C'est un sujet, et vous le savez, on a très très peu aujourd'hui de boîtes qui sont capables de faire pièce à ces géants. On a des quelques licornes, on a des boîtes qui ont émergé, comme BlaBlaCar, etc. Mais encore une fois, j'ai entendu M. Mazella il n'y a pas tellement longtemps, il dit pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir les GAFA en Europe? Il dit que c'est quand même essentiellement la segmentation des marchés, qu'au fait qu'on n'arrive pas à avoir une politique industrielle, en l'occurrence, un peu commune. Quoi. Après, à mon avis, un sujet clé, c'est celui qui est autour de la santé. La santé, c'est, je crois que c'est plus de 20% aujourd'hui des dépenses des ménages, donc 4% direct. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, vous payez 4% pour votre santé, mais... En réalité, par le biais de la sécurité sociale, c'est 20%. Ça retient un cinquième de l'économie. Ça va continuer à augmenter. Et à mon avis, ça, c'est un facteur absolument majeur pour l'avenir de nos sociétés et de notre économie. Parce que c'est des points, c'est des secteurs, ça, c'est toute la partie de l'exposé que je n'ai pas fait, c'est des points où l'Europe, aujourd'hui, une avance un peu par rapport à d'autres pays. Il faut que ce fameux état social qu'on considère toujours comme une espèce de handicap, hein, qui nous permet quand même d'avoir des systèmes de santé, des systèmes d'éducation particulièrement performants. Bon, ils sont très socialisés, mais enfin, c'est des réalités techniques, économiques, sociales très, très fortes. Il faut qu'on s'appuie là-dessus et qu'on arrive à faire que. On arrive à faire en sorte que ce qui est en général considéré exclusivement, surtout sur l'angle de la dépense, hein, le fameux poids de l'état social, ça fait partie du mode de vie européen, ça fait partie des avantages concurrentiels de l'Europe, à mon avis, en termes d'attractivité aussi des talents internationaux. C'est quand même extraordinaire. On ne met jamais en avant, mais enfin, le système de santé est quand même un atout énorme pour attirer des gens en Europe, et pas seulement des gens de basse qualification. Mais quand les Américains découvrent, les chercheurs américains quand ils viennent en France, ils disent « Ah, on ne savait pas, c'est fantastique, quoi. » Et on ne joue pas cette carte-là, parce qu'on prend comme une charge. Et derrière ça, il y a des développements technologiques absolument spectaculaires, qui sont devant nous. La médecine de demain, ça va être quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on connaît. Et donc, essayons peut-être aussi de jouer ces cartes-là. On a en fait en creux, on a aujourd'hui un vrai sujet de. J'ai dit tout à l'heure qu'on a la notion filière, à mon avis, est largement dépassée. Alors, il faut qu'on soigne celle qui existe, notamment l'aéronautique, il faut qu'on essaie de garder l'automobile, ainsi une filière défense. Mais il faut qu'on invente aussi un peu ce que va être la clé de voûte de notre industrie demain. Et ça, on n'a pas beaucoup de débat là-dessus.